Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission sur le cinéma. C'est Black Panther qui réalise les meilleures entrées en France, ce n'est pas étonnant. Et tout cela devant Couleur de l'incendie et Simone, le voyage du siècle, deux films dont nous avons parlé ici. Alors, pour cette émission, nous allons parler de films qui ne figureront peut-être pas dans un top 3 des entrées. Hein. C'est le cas de ton film, toi Manu.
Oui, Coma de Bertrand Bonello, vu la facture, on va dire, quasi expérimentale, ça me paraît logique.
Et puis tu étais tout seul à le voir dans la salle.
Hein. Oui.
Ce qui est un bon indice quand même pour se dire, il ne sera pas dans le top 3. Toi Guillaume, ils ne seront pas dans le top 3 parce que ce sont deux films qui ne passeront pas en salle. Tout
non,
simplement.
Mais probablement dans un flop, ça c'est sûr. Hein. Je pense à Jeepers Creepers Reborn et La Petite Nemo et le Monde des Rêves.
Moi, je vous parlerai du film Les Miens de Roche Dizem et ce sera l'occasion d'entendre le comédien réalisateur et puis comédien aussi, Samy Bouajila, dans cette émission. Quant à Marine, elle va nous parler de La Maison, mais nous allons commencer avec le dernier film de Valeria Bruni-Tedeschi, retour dans les années 80 pour une immersion dans l'école créée par Patrice Chéreau et Pierre Roman au Théâtre des Amandiers de Nanterre. C'est Les Amandiers.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
T'es trop belle.
Être actrice, c'est brûler ses vies, c'est être aimée par tellement de gens que l'on devient folle et que l'on finit seule. C'est ce que dit son majordome à Stella, une jeune femme fortunée qui ne rêve que d'une chose, être prise dans la compagnie des Amandiers, le célèbre théâtre de Nanterre de Patrice Chéreau. Alors précisons d'ailleurs que le majordome en question n'a jamais été acteur de sa vie. On ne sait donc vraiment pas pourquoi il vient donner son avis à notre héroïne, mais le mansplaining doit être inclus dans son contrat de travail probablement. Stella, qui est l'incarnation de Valeria Bruni-Tedeschi, dans sa vingtaine, finit par intégrer le théâtre et elle va vivre intensément, passionnément, cette première année.
Aujourd'hui, vous êtes 40 et à la fin de ce stage, vous serez 12.
C'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
Alors si vous avez des préjugés sur les comédiens, si le stéréotype de l'acteur vous agace, vous détesterez pour de bon ce métier en sortant du film, tant il cumule tous les clichés, mais qui sont visiblement vrais. Dans Les Amandiers, les jeunes comédiens s'arrachent leurs vêtements quand ils jouent. Tout le monde couche avec tout le monde se refile le sida au passage. Les comédiens se droguent, ils se roulent par terre quand ils sont heureux, mais aussi quand ils sont tristes. Et que ce soit sur scène ou dans la vie, ils crient toujours très fort en écarquillant leurs yeux humides d'émotion.
Tu sais, je suis fou, il faut que tu le saches.
Tout le monde est fou.
Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice et là, vous brûlez vos vies.
C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait.
Exactement,
c'est ça.
Exactement. Hein ?
Patrice Chéreau, célèbre directeur du théâtre, mais également cinéaste bien connu, entre autres pour La Reine Margot, est ici interprété par Louis Garrel et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il en prend pour son grade. Hein. Chéreau est montré comme un cocaïnomane, un tyran et un mégalomane. Curiosité du casting, Nadia Tereskiewicz, qui interprète le rôle principal, a été l'amante de Valeria Bruni-Tedeschi dans « Seules les bêtes » de Dominique Moll et après « Babysitter » de Monia Chokri cette année. Elle joue ici le rôle principal, ce qui fait d'elle une concurrente sérieuse pour les prochains Césars. Valeria Bruni-Tedeschi filme ces jeunes adultes comédiens, encore enfants, qui font, je cite, « un métier de pute et de pédé avec une grande affection ». Il est évident qu'il n'y a aucune volonté de dénonciation de la part de la réalisatrice. Loin d'elle l'idée de tourner en ridicule ce microcosme, la réalisatrice nous raconte avec une nostalgie sincère cet endroit où la pudeur n'existe pas, malgré que le côté malsain dévore la pellicule. Les Amandiers a un côté un petit peu fatigant, un petit peu énervant, un petit peu agaçant. Mais il n'en demeure pas moins que le film est une grande réussite et qu'il est profondément sincère.
Les Amandiers, film de Valeria Bruni-Tedeschi, est en salle depuis le 16 novembre. Une adolescente a un pouvoir, celui de nous faire entrer dans ses rêves, mais aussi dans ses cauchemars. Elle est guidée par une youtubeuse inquiétante et mystérieuse, c'est Patricia Coma. Nous parlons du dernier film de Bertrand Bonello.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Patricia Coma. Une chaîne qui vous apprendra à mieux vivre.
Bertrand Bonello clôt une trilogie de la jeunesse après Nocturama et Zombie Child avec ce coma qui désigne autant l'état végétatif dans lequel un individu peut sombrer que le nom effectivement d'une youtubeuse présente dans le film, Patricia Coma, qui cite autant les philosophes que les vertus pratiques d'un mixeur. Nocturama, que j'avais d'ailleurs baptisé à l'époque ici Conforama, se perdait dans un récit un peu hors sol, totalement déconnecté d'une réalité à laquelle le film souhaitait pourtant s'y souscrire, tandis que Zombie Child tentait maladroitement de marcher sur les traces de Jacques Tourneur. Surprise, Bertrand Bonello revient pour moi à son meilleur avec son tout petit film bricolé à la maison, celui de l'Apollonide ou encore Quelque chose d'organique, son premier long métrage. Alors Coma, comme je l'ai rappelé au début, que j'ai vu dans une salle totalement vide, vu la teneur un peu expérimentale. Alors ce qui n'augure rien de bon en termes de fréquentation, mais c'est un magnifique geste de cinéma assez unique, proche des derniers Godard ou des écrits aussi de Guy Debord, largement cité, une œuvre radicale de l'ère Covid qui pourrait rebuter mais demeure fascinant. Alors au départ, il s'agit d'une sorte de cadeau offert à sa fille, expliqué littéralement dans le prologue muet mais sous-titré. Une jeune fille, pendant un confinement, alors pas forcément le Covid d'ailleurs, ça peut être complètement autre chose. Elle est seule dans son appartement, ses liens avec l'extérieur sont reliés à quelques amis, le temps d'ailleurs d'un Skype très drôle et insolite. Le reste du temps, elle pense, observe et puis surtout, elle rêve la nuit d'un espace-temps entre la vie et la mort, faisant basculer le film du côté du cinéma fantastique.
Je crois que j'aimerais bien avoir enfin une histoire d'amour que personne ne juge.
What is she doing? Where does she go?
No idea. Le regard des autres est trop toxique.
Je suis passé de businessman très puissant à vraie star de la télé à président des États-Unis à mon premier essai.
Pourquoi et comment les choses se produisent? C'est la question la plus profonde à laquelle on passe sa vie à essayer de répondre.
Tourné dans un contexte économique très artisanal, un coma affiche une volonté assumée de ne ressembler à rien, embrassant des discours contraires, une esthétique hétéroclite avec une décomplexion assez impressionnante. Alors il y a les poupées Barbie et Ken qui se réapproprient des discours subversifs au milieu de conversations typiques de soap opéra, des séquences animées aussi rythment le métrage de façon régulière, le format change constamment allant du scope au 1.33 en passant par le 1.85. Bref, vous l'aurez compris, Coma n'est pas tout à fait un film comme les autres, et c'est quasi expérimental d'un plasticien qui invente sous nos yeux une manière iconoclaste de raconter une histoire à la fois très personnelle et universelle, jamais à un paradoxe près. En effet, Bonello s'amuse avec les régimes d'images, jongle avec des concepts visuels et narratifs qui ne devraient pas cohabiter ensemble. La forme fragmentée du film convoque alors aussi bien la poésie, la peinture, la philosophie et la politique. Les références sont très très nombreuses. Alors certains grincheux adeptes d'une grammaire classique n'y verront que de la vanité, mais l'extrême sincérité de l'ensemble alliée à un humour constant, alors parfois très provocateur, à l'image des réflexions amusantes sur les serial killers ou de cette fascination ironique pour la fin du monde, tout cela dégage une énergie revigorante pour un film qui célèbre la jeunesse et son esprit libre et impétueux. Dans un monde idéal, évidemment.
C'est quoi le vrai but du jeu?
Gagner.
Je vais devenir folle si je fais pas quelque chose qui me fait du bien. S'il te plaît, baise-moi.
Même si l'hiver est long et rude, le printemps finit toujours par revenir, tu sais.
Je suis en train de devenir folle!
Gagner n'a un intérêt que parce que vous pouvez perdre.
Quel est votre climat aujourd'hui?
Ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre.
Si vous habitez Nice, il fera 61 degrés. De toute manière, comme vous ne pouvez pas sortir de chez vous, tout ceci n'est pas bien grave.
Alors le film aussi, il bénéficie aussi de voix off, où l'on reconnaîtra le timbre, alors très reconnaissable pour le coup de Vincent Lacoste, il joue le rôle de Ken, mais aussi Anaïs de Moustier, Gaspard Ulliel, Laetitia Casta et Louis Garrel. S'emparant des thématiques concrètes très actuelles, les catastrophes à répétition, l'angoisse écologique et la technologie aliénante, Bertrand Bonello signe un film de poche splendide et drôle et inquiétant, inclassable et pourtant passionnant, d'une sensibilité toujours à fleur de peau, qui ne raconte donc pas vraiment une histoire, plutôt une série de vignettes impressionnistes et surréalistes étalées sur une petite 8h20, ben, une durée pour moi idéale à mon goût, surtout pour ce type de film quand même.
Nous parlions de Coma, donc film de Bertrand Bonello en salle depuis le 16 novembre. Basculons vers la plateforme. Accompagnée d'un hors-la-loi extravagant, une jeune orpheline intrépide voyage dans le monde des rêves pour trouver, encore le monde des rêves, hein, pour trouver une perle qui exaucera son vœu le plus cher, la petite Nemo et le monde des rêves, nous en parlons.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Alors, t'es contente? C'est ton premier jour d'école.
Mon père disait que les écoles étaient presque des prisons.
L'école, c'est pas une prison.
J'ai le droit de m'en aller quand je veux.
Ça a quelque chose d'une prison.
Pour beaucoup, sélectionner La Petite Nemo et Le Monde des Rêves sur l'écran d'affichage proposant les derniers contenus de la plateforme Netflix, ben c'est simplement lancer le dernier film avec Jason Momoa et qui s'annonce rigolo, car bourré de situations oniriques et d'effets spéciaux. Pour d'autres, ben c'est la curiosité de voir le traitement infligé à l'œuvre de Winston McKay, hein, auteur de Little Nemo in Slumberland, une BD parue entre 1905 et 1914. Alors qu'est-ce que ça, hein, Little Nemo in Slumberland? Ben ça veut dire littéralement Le Petit Nemo au pays du sommeil. La BD raconte les aventures d'un petit garçon de 6 ans au pays des rêves. Chaque nuit, lorsqu'il s'endort, il pénètre dans ce monde onirique via son subconscient et va rencontrer toutes sortes de péripéties originales. Il va rencontrer le roi Morphée, va essayer de rencontrer sa fille, la princesse, puis au fil des ans, voyagera un peu partout et même jusqu'à Mars, à cheval sur les oiseaux géants ou un lit à pattes. Donc véritable version pulp et comics avant l'heure d'Alice au Pays des Merveilles, Little Nemo n'hésite pas, hein, comme l'œuvre d'autres aussi importante de Lewis Carroll, à utiliser le monde des rêves, hein, comme métaphore pour parler de choses bien plus graves aux enfants. Alors ça tombe bien, hein, ben c'est ce que semble nous proposer la version de Netflix qui arrive en grande pompe, auréolée de pas moins de 150 millions de dollars de budget.
Bienvenue dans mon royaume, cocotte.
Slumberland, le monde des rêves.
Ton père et moi, on était équipiers avant.
C'est toi, Flip? Il me racontait des histoires sur toi tous les soirs.
Je pars à la chasse au trésor. Et ce trésor, il te permet d'exaucer n'importe quel vœu dans le monde des rêves.
Je pourrais revoir mon père alors?
Attention, quand on va franchir cette porte, tout va changer.
La petite Nemo, car oui, on passe d'un petit garçon à une petite fille, et de 6 ans à un peu plus de 10 ans, ben raconte l'histoire de Nemo, qui vit en quelque sorte en ermite dans un phare avec son marin de père. Lorsque celui-ci disparaît en mer, elle est contrainte de découvrir le monde moderne en rejoignant le continent pour être adoptée par son oncle qu'elle n'a jamais vu, et qui est en fait tout aussi asocial que son père, mais version geek. Alors oui, ça ne fait pas rêver, mais attendez la suite. Alors qu'elle s'endort, elle voit un étrange personnage, Flip, un espèce de faune pirate à l'âge mental d'une maternelle constamment en descente de sucre, venir la voir pour lui demander une carte mystérieuse, celle qui cartographie tout le royaume des songes. Les connaisseurs de la BD auront bien du mal à reconnaître Flip dans les traits de Jason Momoa, tant l'interprète d'Aquaman est différent de son homologue dessiné. Alors de caricature d'homme d'affaires à ventripotent, il se transforme en drag queen punk, digne d'un défilé opportuniste de Vivienne Westwood, surjoue en permanence à des scènes que l'on croirait coupées des pires moments d'improvisation de Johnny Depp dans Les Pirates des Caraïbes, et peine à nous impliquer un tant soit peu dans l'intrigue. Alors il faut dire qu'on comprend très vite que de toute façon peu de choses de McKay seront gardées et qu'on a droit à une relecture bien dans l'air du temps, lissée, apaisée, sans aucune forme d'inquiétude et plate d'une œuvre fondamentale de la bande dessinée aussi novatrice qu'intelligente. Pouvait-on en attendre autre chose de l'homme à qui cette tâche fut confiée? À la barre, j'appelle Francis Lawrence, déjà coupable des effroyables nanars Constantine, Je suis une légende et carrément de 3 films Hunger Games, et qui nous prouve par A plus B qu'un tel sujet méritait un vrai réalisateur pour son bien-être. Alors pour s'en convaincre, on vous conseille tout simplement de regarder l'exceptionnel quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona, lui aussi sur l'onirisme qui va aider un enfant à faire son deuil.
La petite Nemo et le monde des rêves est donc sur la plateforme Netflix. Une famille est perturbée depuis qu'un des leurs est victime d'un traumatisme crânien et balance des choses sans filtre. Les miens de Roche Dizem, c'est l'interview de cette émission.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire?
Et de 6 pour Roche Dizem qui, après le bon chocolat et le pavu persona non grata, sort un film plus intimiste que les autres car il s'agit d'une histoire de famille et pas n'importe quelle famille puisque c'est la sienne. Le titre est bien trouvé, Les Miens. Une manière de dire que c'est un regard sur sa famille et non pas telle qu'elle est. Alors pour raconter cette famille, le comédien prend le prétexte d'un accident vécu par son frère cadet dans la vraie vie. Moussa, dans le film, lui, est au plus bas, vivant très mal la rupture avec avec sa femme, il subit un traumatisme crânien qui le transforme. Après une courte période de convalescence où il passe son temps à dormir, il va ressurgir auprès des siens sans filtre. Il va dire tout ce qu'il pense sans qu'on lui demande vraiment, hein, ce qui, on l'imagine, ne va être commode pour personne, ni pour sa fille et son fils, ni pour sa sœur qu'il a toujours maternée, ni pour ses deux frères plus âgés. Mais pour le frère restant, celui qui regarde cette famille, soit le personnage joué par Roche Dizem, Riyad, eh bien cela ne va pas changer grand-chose. Il le doit à l'éloignement, car c'est un homme très occupé, journaliste sportif à la télévision et animateur de sa propre émission sur le football. Il est une célébrité. Mais l'accident va faire bouger la dynamique donc de cette famille. Auparavant distant, Riyad va prendre les choses en main et redéployer cette famille. Alors c'est sans fioriture que Roche Dizem suit sa trame narrative. Pour l'aider à construire son scénario, il a fait appel à Mai Wen, qui elle aussi s'était mise à raconter son histoire familiale avec ADN. La comédienne, elle aussi réalisatrice, eh bien, interprète sa femme à l'écran. Le comédien réalisateur se concentre sur ce qui lie ses personnages. Alors pour cela, il privilégie le plan séquence et prend une posture qui tourne le film vers un ancrage vraiment réaliste. Alors au spectateur de déceler au final, hein, comment cette famille va surmonter ce qui touche l'un des siens. On écoute Roche Dizem, acteur et réalisateur de ce film, et puis un petit bout de Samy Bouajila qui était aussi à ses côtés. Nous avons pu le rencontrer à l'occasion du Festival du cinéma méditerranéen, le Cinémed.
Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue,
4.
Pour ce qui est de l'impulsivité et la colère, l'agressivité,
je te baise.
Quoi ?
3.
Pour ce qui est de la tristesse,
6.
J'ai réalisé que peut-être que ma famille était digne d'être racontée. Et j'ai attendu d'avoir un prétexte. Le prétexte, c'est l'accident. L'accident, finalement, c'est aussi la façon de raconter ces 50 dernières années, c'est cette France dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai vécu, cette famille qui m'a porté, qui a toujours eu un regard bienveillant sur moi. Et il y a une sorte, évidemment, d'album photo ou d'hommage, appelez ça comme vous voulez, qui me semblait nécessaire à ce moment-là de ma vie. C'est une période charnière. J'approche bientôt des 60 ans. Et forcément, je suis encore pas mal, hein. Et forcément, on réfléchit à nos lacunes, à nos propres lacunes, sur le fait que j'ai eu beaucoup de mal à formuler beaucoup de choses, sur le fait que je me suis beaucoup consacré à mon métier et un peu moins à ma famille, toutes ces choses-là. Et j'ai cette chance-là de pouvoir l'exprimer à travers une fiction.
Ils sont vraiment tristes. C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste ?
C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant.
Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif.
Merci.
J'ai profité de cette opportunité pour mettre à profit, quelque part, la complicité non seulement tacite, mais le parcours de vie en commun qu'on a, Rushdie et moi. Sachant qu'il existe, que la caméra est d'une froide objectivité, qu'elle va l'imprimer, et que cette chose-là existe entre nous, il ne fallait surtout pas la jouer, simplement servir la partition qui raconte ça et qui raconte l'histoire de deux frères, et que cette complicité moléculaire ou ce qu'on veut, si elle est légitime, elle ressortira, quoi, et c'est ce qui s'est passé.
Alors, j'avais décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là.
Maman, tonton, là, c'est l'exorciste.
On le connaît plus du tout, là.
Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif.
Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche.
La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire.
Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie.
Ah, tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile?
Je situe mon film d'un point de vue sociétal sur notre rapport à la vérité. Parce que finalement, cet accident, ce traumatisme crânien, va le libérer, finalement. Et c'est intéressant aussi de constater que cette liberté qu'il a n'est pas la nôtre. Et cet accident, c'est aussi ce qui le distinguo qu'il faut faire avec la folie, c'est-à-dire qu'il livre des vérités qui sont les siennes, évidemment, mais qui sont des vérités rationnelles, qui ne sont pas farfelues ou absurdes, elles sont rationnelles. Et ça en dit long sur notre impossibilité, nous, personnes saines, sur notre rapport à communiquer, à dire les choses telles qu'on les pense.
T'as ton petit frère qui est inconscient, encore une fois c'est moi qu'on appelle.
Et moi j'aurais pu gérer, mais on me demande rien.
Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi.
On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc c'est qu'en plus tu te prives de bons moments.
Pour vous raconter un peu comment je me suis retrouvé à écrire avec Maïwenn, c'est-à-dire que quand je raconte cette histoire à mon producteur, il me dit « Ah bah tu devrais aller voir un film qui est en post-production, là, dans le bureau, parce qu'on l'a écrit très vite et on l'a tourné très vite. On l'a écrit en 4 semaines, tourné en 4 semaines. » Je suis allé voir ce film, c'était ADN. Ce qu'elle a apporté, c'est évidemment cette écriture charnelle. C'est une femme, c'est une réalisatrice qui n'est pas dans... Elle ne théorise pas. J'ai toujours travaillé en binôme, je ne sais pas écrire seul. Et là, j'avais quelqu'un qui était un peu comme moi, qui est quelqu'un qui s'est fait toute seule. Et on est des autodidactes et j'avais besoin de ça pour raconter cette histoire qui m'est très personnelle. Je savais ce que je voulais raconter, je voyais à peu près comment je voulais y accéder, mais elle m'a donné les codes et les clés pour y aller de façon plus fluide et surtout de prendre cette décision-là, d'avoir une vraie mise à nu et de mettre en scène des modèles qui me sont proches et chers.
J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas.
Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça.
C'était Roche Dizem et Samy Bouajila pour le film Les Miens en salle depuis le 23 novembre. Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager comme prostituée dans une maison close à Berlin. C'est la maison de Anissa Bonnefond.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie. Mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Où mon livre n'était qu'un prétexte.
Emma est une jeune autrice qui décide un beau jour pour écrire son nouveau roman d'intégrer un bordel berlinois et de s'y prostituer. Si sa sœur avec qui elle vit voit cette nouvelle activité d'un mauvais œil et que son meilleur ami également s'inquiète pour elle, Emma, elle, s'épanouit dans cette nouvelle vie et découvre des facettes du métier qu'elle ne soupçonnait pas. Il aura fallu moins de 2 ans. Un record entre la sortie du best-seller de Emma Becker, La Maison, en 2019, et son adaptation au cinéma par Anissa Bonnefond, que l'on connaissait surtout pour son travail documentaire sur le film Wonder Boy. Alors la principale question que soulève le film, c'est comment mettre en scène, comment filmer le travail du sexe. L'un des biais importants ici est la dimension consentie de ce travail. Emma, alias Justine, quand elle se prostitue, le fait de façon tout à fait volontaire, sans être acculée par le manque d'argent, et elle est en capacité d'arrêter d'exercer ce métier quand elle le souhaite. Le cinéma français s'est plusieurs fois penché sur la prostitution des femmes et spoiler, ça marche mieux quand c'est une femme derrière la caméra et que l'on est dispensé du male gaze qui a tendance à glamouriser les prostituées et à fantasmer leur métier. Fille de joie de Anne Polisevitch, on voit la vie d'une maison close dans laquelle des femmes très ordinaires travaillent avant de retourner vivre dans leur banlieue. Dans Une femme du monde de Cécile Ducrot, Laure Calamy fait le plus vieux métier son grand plaisir, mais tout en restant indépendante chez elle. Et dans le film Elle, la réalisatrice Malgorzata Zumowska pointe du doigt les rapports intimes qui peuvent se tisser entre clients et prostituées, les relations d'amitié sincères, sans pour autant omettre la violence qui parfois s'immisce. Alors, où se situe la maison dans la représentation de la prostitution ? Anissa Bonnefond n'opte pas pour une mise en scène naturaliste. La réalisation est soignée. L'intérieur des maisons closes est filmé comme un petit monde hors du temps, ou plutôt accueillant. Et pour filmer, par exemple, la première passe de Emma, la réalisatrice choisit de filmer en caméra subjective. Nous sommes donc littéralement à la place de la prostituée. Le choix de Anna Girardot pour interpréter Emma est excellent. Elle a la candeur et l'assurance pour donner chair à cette femme qui va révéler sa propre puissance en se prostituant. Autour de Anna Girardot, un casting étrange et convaincant, composé de la truculente Rossi de Palma, de l'ancienne hardeuse Nikita Bellucci, de la chanteuse Irma. Au final, ce casting hétéroclite est surtout un effet d'annonce, car les personnages n'existent pas vraiment. hormis celui de la dominatrice interprétée par Horatica, que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment déjà au cinéma. La maison, malgré qu'ils se défendent parfois un peu maladroitement de produire un discours qui banalise la prostitution, avec des dialogues assez lourds parfois, demeure un film attachant, sincère, intelligent, sur la puissance et la solidarité féminine, les hommes étant quand même relativement absents du film. Seul défaut à relever le fait que le film se termine, comme une dizaine d'autres films français cette année, sur un regard caméra.
La maison d'Anissa Bonnefond est en salle depuis le 16 novembre. Chase et Len se rendent au festival de films Horror Hound, où Len commence à avoir des prémonitions et des visions inquiétantes liées à The Creeper et au passé de la ville. C'est Jeepers Creepers Reborn.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Le cas passionnant de Jeepers Creepers permet de remettre certaines pendules à l'heure. Alors, dans cette époque triste, faite de faux tartuffes et vrais poseurs, et où toute une fange de la cinéphilie se retrouve derrière le thème confortable des levétiers d'horreur, terme méprisant qui condamne le divertissement pur du film fantastique ou horrifique pour se cacher derrière la fausse gloire d'un film dit d'auteur, soit élevé, mais l'arrivée de Jeepers Creepers Reborn permet, à défaut d'avoir un bon film, de faire voler quelques dents. Alors, Jeepers Creepers, premier du nom, est sorti en 2001 et l'exemple même du film qui n'a pas attendu les théoriciens du dimanche pour exister. Jeepers Creepers est l'une des illustrations ultimes que le terme de cinéma d'auteur ne veut rien dire et que tout film, y compris d'obédience fantastique et ou horrifique, est un film d'auteur pourvu que, comme tous les autres genres, il y soit question d'une histoire personnelle. Et ce, comme le dirait Gaumont, depuis que le cinéma existe. Et c'est le cas avec Victor Salva, réalisateur et scénariste qui connut la gloire avec le succès de ce film, mais qui a disparu lorsque son passé a ressurgi. Alors il faut dire que l'histoire est aussi glauque que tragique. Salva, victime de pédophilie lorsqu'il était jeune, a aussi fait subir ses abominations à un enfant lorsqu'il fut un petit peu plus vieux. Après avoir fait sa peine de prison, il a repris le chemin des studios et a œuvré modestement dans le genre jusqu'à ce Jeepers Creepers produit par Francis Ford Coppola et que l'on comprend comme étant hautement métaphorique. Mais comment pourrait-il en être autrement avec cette histoire de prédateur qui hiberne, puis se met en chasse de ses victimes qu'il repère par l'odeur, puis qu'il kidnappe pour les faire ensuite glisser dans son antre le long d'un tube poisseux pour ensuite récupérer leur chair. Donc fort de ce succès et après un excellent opus numéro 2, les problèmes dus à sa nouvelle célébrité se sont enchaînés et après avoir pu signer un 3 tardif avec de très grandes difficultés en 2017, il a été totalement abandonné par l'industrie qui lui a même retiré sa création phare. Donc Jeepers Creepers Reborn a été conçu sans lui. Dans ce cas bien précis, c'est donc parfaitement hypocrite d'empêcher quelqu'un qui a payé sa dette envers la société de faire un film qui métaphorise à travers l'art tout le mal qu'il a subi et fait vivre et prétendre faire un nouveau film plus sain et bien propre sur lui, alors que l'essence même du monstre représente dans le film, parle toujours du réalisateur mis au banc de la société du spectacle. Voilà donc l'intérêt de comprendre ce que l'on regarde et fabrique sous peine d'y laisser des plumes, que l'on soit elevated ou geek.
Vous connaissez le Creeper ? Il tue.
Ça, c'est de vraies images.
J'ai jamais vu un truc de ce genre.
Qu'est-ce que tu vois ?
En parlant de geek, en lieu et place de Salva, le siège est désormais assuré par Timo Joensola, réalisateur des très nuls Iron Sky 1 et 2. La scène d'introduction a pourtant tout pour attirer le spectateur. Alors certes, c'est un quasi-remake complet du début du premier film, à la différence qu'à la place de Justin Long et Gina Phillips, soit un frère et sa sœur, on suit la première rencontre du Creeper avec un couple de personnes âgées, dont Dee Wallace. Et Dee Wallace, pour les amateurs d'un certain âge d'or du cinéma fantastique et de science-fiction des années 80, c'est un visage lumineux et terriblement émouvant. C'est la maman d'E.T., de Steven Spielberg, mais aussi de Critters, de Cujo ou des Invisible Mom. C'est la journaliste de Hurlement, de Joe Dante. Donc voilà, aussi court soit-il, le rôle est une délicieuse Madeleine de Proust et qui nous laisse espérer du meilleur. Malheureusement, la qualité, elle, ne traverse pas forcément les âges. Jeepers Creepers prend donc le chemin triste et besogneux de tous ces grands films qui offrent un premier opus exceptionnel avant de voir leur spécificité se diluer et disparaître totalement au fur et à mesure que les suites peu inspirées s'enchaînent à la Razor, et le film d'horreur poisseux et métaphorique est transformé en banal slasher. Le pire de ces sagas arrive lorsque l'interprète du monstre lui-même décide de rendre les armes, ce qui est aussi le cas de l'excellent Jonathan Breck, alors qu'il avait pourtant suivi Victor Salva dans le troisième opus malgré tous les problèmes de production. Bon, il faut dire que cette intrigue hors sujet avec les mythologies du Creeper qui mixe influenceur et Rosemary's Baby n'avait absolument rien pour elle et ne sait rien offrir d'intéressant. Donc voilà, en guise de renaissance, hein, Jeepers Creepers Reborn, hein, un simple DTV et un format qui lui suit très bien, et probablement tel un couperet, hein, bah, tranchant net le coup d'une franchise qui n'a jamais eu le temps d'en être une, et qui, vu ses origines, bah, ne devait pas en être une. Donc une bien triste ironie, décidément, que ce choix de titre.
Ce film est disponible en VOD et en DVD Blu-ray.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Vous avez déjà vos films pour la semaine prochaine, et toi tu en as deux, Guillaume.
Oui, j'ai Il était une fois deux, donc sur une plateforme, et au cinéma, Le Torrent.
Et puis toi, Manu, un film.
Un film d'épouvante anglais, She Will, de Charlotte Colbert.
Et pour Marine, ce sera She Said.